j'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance,
on bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas le moyen pour répliquer,
ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste, la gangrène, les lignes pour la
bordel. L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Hola, bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes à l'écoute du Canu Info de ce jeudi. Le combien sommes-nous, Laurent ?
Je sais pas, mais on doit être le 5.
Ah, nous sommes donc déjà en octobre, le 5 octobre. Même si le temps nous rappelle un été indien. Ouais.
Enfin, un été, parce qu'un été voilà. Tout court.
En tout cas, nous voilà donc à l'antenne pour une nouvelle émission. Et nous sommes déjà heureux et heureuses de vous annoncer le retour de l'émission Contre les prisons pour les prisonnières et les prisonniers. La petite cuillère que vous pourrez écouter à partir de 20h. L'équipe est en train de se préparer. Nous sommes très heureuses de les retrouver donc ce soir pour ce jeudi 5 octobre. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir, Laurent ?
Ah, c'est à moi de dire. Donc tu vas faire ton intro, après on parlera nucléaire, on parlera Slovaquie, on parlera France et Éthiopie si on a le temps. Voilà, j'ai tout dit. Et tu vas faire donc ça à faire nos amis politiques.
Oui, alors comme M. Macron s'ennuie, alors vous avez vu quand il bouge beaucoup, hein, il se balade, il va dans plein d'endroits, dans son petit avion. On ne sait toujours pas combien tout ça coûte, mais en tout cas, il va serrer des paluches. Il essaye de se montrer comme étant un homme à la fois actif et important et dans les puissants du monde. Donc il tente aussi de marquer l'histoire de la France et l'histoire de sa constitution, puisqu'il aimerait bien y apporter des petites modifications. Alors, je vous rappelle que la constitution a été modifiée, révisée, comme on dit, 24 fois. Il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat s'accordent sur un texte identique pour que ça puisse fonctionner. Et ce texte doit être adopté par les 3/5 du Parlement ou par un référendum. Voilà, juste pour le contexte extrêmement rapide de tout ça. Alors, M. Macron a célébré le 65e anniversaire de cette Constitution. Il veut y apporter des modifications à cette loi fondamentale. Il veut donner, paraît-il, plus de force à la souveraineté populaire et répondre aux aspirations démocratiques de notre temps. Je le cite. Alors, je ne sais pas en quoi M. Macron... bon, s'il ne voudrait pas revenir quand même sur le sujet, mais enfin, question aspiration démocratique, il aurait pu ne pas toucher à notre retraite. Voilà. Bon, ça c'est encore une fois rappelé, on ne va pas lui pardonner, hein, bien évidemment. En tout cas, il a expliqué donc hier, mercredi, vouloir par exemple faciliter, excusez-moi, le référendum d'initiative partagée. Vous savez, ce RIP qui ne fonctionne pas bien, en fait, parce qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de signatures de citoyens et de citoyennes pour qu'ils puissent même être vus après par les parlementaires. Enfin, tout ça est assez compliqué. Et puis finalement, même le dernier, peu de gens étaient au courant de comment tout ça se passait, et même qu'il existait, hein, ce référendum. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, c'était celui sur le caractère de service public national de l'exploitation des aéroports de Paris, hein, c'était en 2020, il n'y avait pas eu assez de signatures de citoyens et de citoyennes, donc tout ça avait échoué. Donc M. Macron dit qu'il faudrait le rendre plus attrayant et plus facile d'accès en réduisant le nombre donc, de nécessaires de ces signatures. Mais il voudrait aussi changer le principe du référendum. Il n'y a que pour l'instant hein, trois thématiques et il aimerait étendre le champ du référendum tout en expliquant qu'il ne faut pas soustraire aux règles de l'état de droit. C'est-à-dire qu'il ne voudrait pas que le référendum puisse gêner les décisions des parlementaires. C'est ça en fait l'idée, c'est-à-dire qu'à un moment le risque, ça serait, d'après lui, qu'il y ait des décisions qui soient prises par le Parlement et puis qu'il y ait un référendum, bim bam boum, et que ça vienne écraser les décisions du Parlement, peut-être de son équipe. Qui...
Donc ils feront des référendums orientés pour que ça aille dans le même sens qu'eux, quoi.
Alors il explique qu'on ne révise pas la Constitution sous le coup de l'émotion. Là-dessus, nous sommes à peu près d'accord. Mais là où on peut peut-être, ensemble, si vous le voulez bien, s'inquiéter, c'est qu'il aimerait que ce référendum puisse s'accorder sur des questions relatives à des questions de société. Hein, c'est ça qu'il entend. Et qu'est-ce qu'il entend, par exemple, comme sujet de société? Je vous le donne en mille. L'immigration. Alors, je vous le dis tout de suite, tous ceux et toutes celles qui ne vont pas voter, qui ne sont même plus inscrites sur ces registres des électeurs et des électeurs. Si jamais demain on avait un référendum sur l'immigration, évidemment, ça va nous poser des questions. Parce que quelle va être la question ? Toujours, c'est ça le centre. Hein. Quelle est la question ? On se souvient du référendum hein, sur...
Qui s'était assis dessus, tu veux dire, sur l'Union Européenne, sur la Constitution.
Et puis comment c'est posé hein, c'est comme toute question, tout sondage ou toute étude. Tout ça peut avoir un biais. En tout cas, bon, il dit qu'il faut faire attention quand même aussi à la démocratie, entre démocratie directe et démocratie représentative. Bon.
On est loin de la démocratie directe, tu t'inquiètes pas Manu, c'est bon, on est à 500 000 kilomètres de la démocratie
voilà, et
directe.
Puis, il aimerait faire entrer l'inscription du droit à l'avortement dans cette Constitution. Hein, on rappelle que l'Assemblée nationale avait parlé de droit et que le Sénat, lui, a parlé de liberté. En tout cas, pour l'instant, on attend toujours, ça fait 7 mois, la suite de ces discussions et de ces votes. Mais c'est vrai que là-dessus, M. Macron, ben oui, il s'est fait déborder par... toute sa gauche, et même par une partie de sa droite, sur cette question. Donc, il essaye de trouver un sujet de société qui, malgré les quelques abrutis conservateurs et conservatrices intégristes, c'est un sujet qui, quand même, ne soulève pas d'opposition majeure aujourd'hui dans notre société. Encore une fois, il y a toujours des conservateurs, conservatrices et des intégristes contre ce droit à l'avortement. Il l'est remis en question, on en a parlé la dernière fois, et même par des médecins, on en a parlé, mais... là-dessus, il prend pas trop de risques, hein, quand même, Monsieur Macron. Et puis surtout, bah, il se retrouve face à un sujet qu'il est bien embêté, parce que je vous rappelle qu'il y a aussi la fin de vie. Enfin, il y a plein de choses, hein, comme sujets sociétaux qui l'embêtent un petit peu. Donc, parler de ça pour cette Constitution pourrait être une solution aussi de passer pour un homme progressiste.
Oui, surtout qu'ils ont prévu de le passer au milieu d'un autre projet de modification de Constitution qui a peu de chances de passer. Et voilà, il leur a dit, moi, je pense que c'est une bonne excuse. J'ai tenté de le faire et ça a foiré. Ouais, alors qu'il le fait de travers pour que ça foire. Hein.
Ah, c'est non, quand non, même... mais c'est une méthode, hein, monsieur Macron. Je pense qu'on peut écrire des livres de la méthode macroniste. Et puis, il a parlé aussi d'une nouvelle étape de décentralisation. Alors là aussi, il y a le bon et le mauvais côté. La décentralisation, c'est donner plus de pouvoir, d'autorité et de décision à des collectivités territoriales. Mais évidemment, tout ça peut être extrêmement aussi inquiétant, puisque plus de pouvoir veut dire... plus de décisions et plus de pognon pour payer ces décisions. Donc c'est aussi sur ça sur lequel on peut s'inquiéter, et s'inquiètent en particulier les maires par exemple, qui trouvent que la décentralisation c'est sympa, mais quand l'argent il n'est pas redistribué, on mène à rien les problématiques. Donc, pourquoi pas, hein, mais en tout cas, c'est à suivre cette affaire. Et puis évidemment... dernier champ, les nouveaux statuts de la Corse, et de la Nouvelle-Calédonie. Alors évidemment la Corse, hein, bon, quelques jours après hein, le discours d'Ajaccio, une semaine après. Que peut faire Monsieur Macron? Tous ses prédécesseurs ont eu des idées avec la Corse. ça ne va jamais bien loin. Donc on attend là-dessus hein, aussi. Et puis sa position sur la Nouvelle-Calédonie avec des référendums qui ont pour l'instant peu abouti dans un sens d'une autonomie et d'une indépendance. Reste à savoir là-dessus si jamais il va faire quelque chose ou si juste aussi là on est sur de l'agitprop. En tout cas, du côté de l'agitprop, il y en a hein, et toujours du côté de ce gouvernement, hein, puisqu'on a appris que le Conseil des ministres a acté la dissolution du mouvement intégriste Civitas. Alors on peut dire ouais, c'est vachement classe parce que de toute façon ils sont sexistes, homophobes, racistes, même presque suprémacistes blancs. Enfin, vous voyez tout ça, tout ça.
Bah bon, ils vont exister sous une autre forme et un autre nom. Donc,
Oui, mais le problème c'est la dissolution puisque on a un gouvernement qui aime s'attaquer à tout ce qui peut gêner et Civitas n'avait pas l'air d'être tellement finalement aujourd'hui utile à Monsieur Darmanin par exemple, donc c'est pas grave de taper sur Civitas. Mais le problème c'est que ces dissolutions elles touchent aussi des groupes d'extrême gauche ou des groupes écolos et que là c'est plus gênant mais parce qu'elles se font quand même sur les mêmes idées, hein, c'est de l'atteinte à la République et que ces atteintes à la République elles sont pas forcément prouvées et légitimes hein, de décider que tiens là Civitas ils attaquent la République. Peut-être, mais ça c'est tendancieux et ça touche et la droite et la gauche, ça touche tout le monde. Donc il faut faire très attention avec cette idée de dissolution. Mais bon, on peut quand même se réjouir que Civitas se fasse un peu taper dessus, hein, parce que franchement, c'est quand même des intégristes assez néfastes. Voilà. Et puis, sur ces groupuscules violents, M. Darmanin a donc indiqué qu'il y avait 10 000 membres de l'ultra-gauche qui sont suivis par les services de renseignement.
Fiché S, quoi.
Alors, entre suivi et fiché, il y a une petite différence, hein, ouais. Mais ça veut dire qu'il y a quand même 10 000 personnes qui sont suivies, et il y aurait 3 000 personnes fichées S ultra-gauche. C'est oui. Beaucoup.
Ouais, bah, c'est tous les militants écolos, tous les militants libertaires un peu actifs, enfin tous ces gens-là. Hein. Bon, c'est pas nouveau que les services intérieurs fichent un peu tout le monde. Maintenant, on a les infos sur les fichiers S, mais on a toujours eu ça, hein, cet État qui essaye de contrôler les gens qui ne se laissent pas faire. Et on est dans... la République a toujours été un peu liberticide. Elle est née liberticide, elle continue à l'être. On a connu des périodes... un poil pire, mais là je pense qu'on retend vers le pire. Voilà, donc c'est inquiétant sur le nombre, mais bon, sur le principe, ça reste concomitant de la République d'être liberticide sur les gens qui s'opposeraient à elle.
Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, comme d'autres pays très autoritaires, les militants et les militantes écolos sont les nouveaux...
c'est les nouveaux ennemis.
Les nouveaux ennemis donc de cette France méthode Darmanin. Bon, il faut dire que ce sont aussi des activistes très présents, à la fois dans les médias, mais sur le terrain, bien évidemment. On a eu évidemment les ZAD. On se souvient évidemment de ces dernières actions qui ont amené les autorités à tirer je ne sais plus combien de milliers d'engins pour s'attaquer à ces militants et ces militantes.
Mais il y a une époque où les militants d'extrême gauche qui étaient fichés S, c'était Action Directe, quoi. Donc ils faisaient des trucs vraiment agressifs et violents. Là, aujourd'hui, il suffit d'être militant, de participer à des manifs, à des blocages d'autoroutes, à des blocages de construction de bassines, pour être considéré comme ultra-gauchiste, ultra-dangereux, et être fiché ou être suivi par les renseignements intérieurs. On a quand même basculé où tous ces gens-là que l'État considère comme dangereux, finalement, peut-être qu'il y a 30 ans, on ne les considérait pas comme si dangereux que
alors,
ça.
Alors, c'est vrai que c'est aussi Sainte-Soline hein, qui a réaxé aussi cette lutte contre cette lutte de l'État, hein, contre des militants et des militantes, mais on a aussi cette ultra-gauche. On ne sait pas bien toujours hein, ce que c'est, c'est-à-dire que si ça se trouve, vous m'écoutez et vous faites partie de cette ultra-gauche.
Ça se trouve, t'en es aussi.
Surveiller. Hein, moi, je ne fais que parler dans un micro, tu sais. Hein.
Ah, oui.
Peut-être que quand nous aurons effectivement le RN au pouvoir, nous pourrons peut-être nous inquiéter, mais enfin, pour l'instant, je m'inquiète peu, même si tu vas nous parler de la liberté de la presse et des petits soucis qu'on peut rencontrer, d'une manière générale, dans un certain nombre de pays, moi, personnellement, je m'inquiète peu. Mais c'est vrai qu'on a aussi ces activistes, ce qu'on appelle les Black Blocs, et qu'on aime bien définir sous ce terme dans les médias et au niveau politique, parce qu'on n'arrive pas bien ça. savoir qui c'est finalement. Bon, on a aussi des gens qui sont suivis. On sait aussi, il y a des procès, je vous rappelle, en ce moment, suite Sainte-Soline est repoussée, mais il y a des procès où aujourd'hui on traite les gens de terroristes. Donc, ces procès, ils sont aussi très inquiétants parce qu'on soupçonne les gens de vouloir fomenter des choses alors qu'on n'en a pas la preuve et que le procès s'ouvre quand même. Donc, c'est là où, sur Rébellion, hein, vous aurez dû suivre aussi sur ce qui se passe en cours. Donc, on peut aller suivre sur ce site un certain nombre d'informations. Mais voilà, c'est vrai que ce fiche S, on l'a toujours tous toute pensée, hein. Alors ça, c'est les terroristes islamistes qui sont fichés S, mais non, bien évidemment. Et même là, on peut, c'est largement critiquable, hein, le fait d'être aussi dans ces fichiers de surveillance, même quand on est pratiquant ou pratiquante musulman et intégriste, mais être soupçonné de terrorisme. Donc toute cette méthode Darmanin, elle ne fait que inquiéter des gens, et en particulier donc les militants et les militantes, puisque je vous rappelle que pour Monsieur Darmanin, il aime bien critiquer cette ultra-gauche. Il avait dit il y a quelque temps, ces militants, comme ils disent, sont beaucoup des avocats, des médecins, et jamais l'ouvrier en colère de l'usine qu'on ferme. Alors on entend Le Pen, hein, derrière ce genre de propos, c'est-à-dire que il s'en prend aux militants et aux militantes en les faisant passer tous pour des bourgeois ou des bobos, et des gens qui seraient donc hors sol et qui ne sauraient pas penser la France correctement. Alors je vois pas pourquoi d'abord un avocat ou un médecin n'aurait pas le droit d'aller se battre pour préserver la planète et en étant un activiste ou une activiste contre les méga-bassines à Sainte-Soline. On voit pas où est le problème. Et puis c'est aussi soi-disant prétendre que les écolos ne sont que des riches bourgeois, que les militants de l'ultra-gauche ne sont que des étudiants incapables d'aller travailler, et qu'il y a des chômeurs qui seraient des assistés qui ne voudraient pas aller travailler, des feignants. Donc cette rhétorique, on l'entend encore beaucoup, et Darmanin continue à la poser. Il la pose d'ailleurs, vous aurez noté, beaucoup plus quand il s'agit de ces militants écolos ultra-gauchistes que quand c'est des ultra-droitistes et
de l'extrême droite. Tout court, ouais.
Voilà. En tout cas, voilà donc pour cette introduction, parce que franchement, ils ont vraiment que ça à faire.
Alors là, on va faire une rubrique nucléaire, parce qu'en ce moment, je suis un peu énervé. Il faut dire que les propagandistes du nucléaire, ces faux écolos, ces industriels du secteur, ils vont de leur propagande pour défendre cette énergie. Donc on va revenir sur quelques arguments fallacieux utilisés par ces escrocs et criminels environnementaux, puisque c'est de ça dont il est question. Quand on crée des choses dangereuses pour 100 000 ans, on ne peut pas être un bienfaiteur de l'humanité, faut quand même le dire. Alors leur premier argument et principal angle d'attaque, vous l'avez bien tous saisi ces cinq dernières années, c'est de faire croire que le plus important dans l'écologie, c'est lié au dérèglement climatique. Alors on parle beaucoup des dérèglements climatiques, il fait chaud en ce moment, tout ça, etc. C'est ultra visible comme impact écologique et comme changement écologique. Donc du coup, ça leur sert d'argument en disant, bah regardez, nous, ce qu'on fait, ça participe pas au réchauffement climatique. Donc ils nient, par exemple, l'extinction massive des espèces. Hein, on a certains endroits où on a 50-60% de disparition des espèces vivantes. Le nucléaire y participe en partie d'ailleurs, notamment en réchauffant l'eau, en émettant des produits radioactifs qui ont un impact. On en parlera des faibles doses tout à l'heure. Il nie aussi la pollution généralisée de notre environnement et toutes les atteintes à la santé que cela amène. On pense à l'explosion des cancers pour les moins de 50 ans, par exemple. Bon, bref, pour ces révisionnistes de l'écologie, il n'existe qu'un seul problème écologique sur la planète important. Un seul problème important, c'est le dérèglement climatique, et c'est les émissions de gaz à effet de serre. Et pourtant, c'est bien plus complexe que ça, mais c'est pas leur but de parler de tout ce qui peut être négatif sur notre planète et sur lequel nous avons un impact. Mais on va revenir là-dessus, parce que même sur le plan des dérèglements climatiques et de l'impact des gaz à effet de serre, le nucléaire est en fait un mauvais choix. Car pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est une erreur de miser sur le nucléaire. Et on a une démonstration qui est très efficace, pour le coup. Ça nous vient de Greenpeace. Donc ils ont comparé l'impact des réductions des gaz à effet de serre suivant trois scénarios. Donc le premier scénario, le scénario du gouvernement, on construit 6 réacteurs EPR, on continue de développer le nucléaire. Ça c'est le premier scénario. Deuxième scénario, on développe pour des coûts équivalents les énergies renouvelables et on compare l'impact sur les gaz à effet de serre. Troisième scénario, on rénove les passoires énergétiques et on regarde l'impact que ça a sur les gaz à effet de serre. Et on va comparer ces trois choses. Donc le scénario de départ, donc le plus favorable à l'atome, 52 milliards investis pour construire ces fameux EPR de deuxième génération. On rappelle que l'EPR de première génération en France, il a toujours pas démarré. Il a coûté 10 fois le prix prévu. Hein. Bon, après, voilà, l'arnaque et l'escroquerie ou le mensonge sur les qualités techniques de l'entreprise, des entreprises qui gèrent tout ça, est flagrant quand même. Bon, bref, si on suit les données et on prend les données des nucléophiles de Macron et compagnie, si on investit ces 52 milliards pour ces 6 nouveaux réacteurs, les émissions cumulées évitées de gaz à effet de serre d'équivalent CO2, c'est 24 millions de tonnes d'ici 2050. 24 millions de tonnes et ça produira 530 TWh d'électricité. Si on investit le même montant dans les énergies renouvelables, avec un mix éolien photovoltaïque qui sont complémentaires en termes de production en général. Là, pour le même investissement, on économise 102 millions de tonnes de CO2, c'est-à-dire plus de 4 fois plus. Et on produit 1538 TWh d'électricité, 3 fois plus que ces 6 EPR. Donc ça, c'est une démonstration scientifique classique. On prend les données et on compare l'impact. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 52 milliards? Combien de réacteurs on construit et combien d'implantations de mixte éolien photovoltaïque on construit et ensuite on analyse. Et là, bah, c'est ultra défavorable pour le nucléaire, hein, qui pour le même montant produit 3 fois moins et émet 4 fois plus de gaz à effet de serre. Donc c'est plié. Alors il y a le deuxième scénario qui est finalement moins intéressant mais qui l'est quand même. C'est si on investit dans la rénovation énergétique. Donc là ils prennent le chiffre du gouvernement aussi. Si on voulait rénover je crois qu'il y a 12 millions de passoires énergétiques, enfin de choses à rénover en tout cas. Alors ça coûterait un peu plus cher que les 52 milliards pour construire les 6 EPR. Alors c'est 52 milliards hors coût financier, c'est-à-dire hors emprunt, etc. Donc dans les faits, on sera sûrement à 10 ou 20 milliards de plus et encore, hein, on devrait être encore plus élevé vu le coût pour construire le premier EPR à Flamanville. Donc bref, 85 milliards d'euros investis dans la rénovation des logements d'ici 2033, c'est-à-dire demain, hein, c'est dans 9 ans, ça permet d'économiser 6 fois plus de CO2 que de construire des centrales nucléaires, des nouvelles centrales nucléaires. Donc ça vaut vraiment le coup. Hein. Et en plus, ça permettrait à 12 millions de personnes de sortir de la précarité énergétique. Donc on a une amélioration sociale forte. Donc voilà, Greenpeace démontre tout ça, on le savait déjà, mais là c'est une belle démonstration, simple et efficace, rationnelle. Grosso modo, le nucléaire, si on investit la même somme ailleurs que dans le nucléaire, on est plus efficace que le nucléaire. Voilà, mais... c'est pas ça qui va sûrement faire changer le gouvernement, puisqu'en fait il y a des enjeux capitalistes forts derrière. Il y a des ingénieurs issus de quelques grandes écoles qui sont nucléophiles et qui sont porteurs des influences fortes sur le gouvernement. Il y a les industriels qui poussent derrière, et c'est tout ça qui fait que le nucléaire est remis en avant par Macron et compagnie. Ils se servent de l'argument écolo pour le mettre en avant, mais c'est bien évidemment pour d'autres raisons qu'ils veulent développer ce truc-là. Mais ça fait réagir. Et de manière assez incroyable, on a de nombreux scientifiques qui se sont mobilisés. Des scientifiques qui viennent d'un peu partout. Il y en a qui sont physiciens du nucléaire, donc qui sont spécialistes du domaine. Il y a des médecins, des ingénieurs, des anthropologues et des gens un peu plus éloignés, comme des sociologues, qui ont écrit un texte pour tirer la sonnette d'alarme, pour dénoncer ce nouveau programme nucléaire que Macron avait annoncé à l'époque, hein, de la présidentielle. Donc ils ont lancé un appel, ça s'appelle appel de scientifiques contre un nouveau programme nucléaire.org. Bon, vous verrez, vous trouvez ça sur Internet. C'est soutenu par voilà, ils sont relativement nombreux pour l'instant, au moins 400 scientifiques voire plus. Alors, il y a eu une conférence de presse le 12 septembre dernier, et c'est là où on a eu plein d'informations, une conférence de presse organisée par certains députés de la France insoumise et d'Europe écologie les Verts, et on a eu des témoignages, notamment par exemple Jean-Marie Brome, donc dont le métier est d'être physicien du nucléaire, donc il s'y connaît un peu, directeur de recherche au CNRS. Donc lui, voilà, il a dit, bah voilà, il faut lutter contre ce nouveau plan. Il fait écho, cette mobilisation scientifique au plan, à la mobilisation des années 70, quand le fameux plan Messmer qui a lancé toute la construction des réacteurs nucléaires français. Il y avait 400 scientifiques à l'époque, au moins 400 scientifiques, qui s'étaient mobilisés avec un texte, un appel dans le journal Le Monde à l'époque. Et ils avaient monté le groupement de scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire, le GESCIEN, je ne sais pas comment on le prononce en acronyme. Et ben là, 50 ans plus tard, un nouveau programme est lancé avec... plus de scientifiques encore, ils sont plus que 400, et d'anciens membres du GESCIEN, et puis voilà, des physiciens, entre autres, on a Bernard Laponche, par exemple, qui est physicien nucléaire aussi, et qui est président de l'association Global Chance, et qui dénonce la construction de ces EPR. Donc c'est plutôt positif d'avoir des scientifiques qui se mobilisent. Mais ça va plus loin que ça, parce que comme ils le disent, comme ils l'ont dit le 12 septembre lors de ces conférences de presse, l'idée c'est pas de limiter cet appel à la communauté scientifique. Ça a un intérêt parce que ça montre que la communauté scientifique est pas derrière les technophiles du nucléaire. Elle est pas derrière forcément tout ce que disent les politiques ou les ingénieurs qui défendent cette énergie. Ça c'est important, mais elle dit aussi il faut que le peuple, les gens s'en emparent. Parce qu'en fait, l'enjeu, il n'est pas que technologique, il est éthique, politique, géopolitique, économique, sanitaire et plein d'autres choses. C'est un vrai enjeu de société et c'est bien pour ça qu'il faut faire sortir ce discours des spécialistes, parce que ce n'est pas à eux de prendre la décision, c'est bien à la population. Alors, ils expliquent pas mal de choses, ils ont expliqué pas mal de choses sur cette conférence de presse et ils ont repris mon argumentaire de tout à l'heure, là, de dire qu'ils... il dénonce l'instrumentalisation des dérèglements climatiques qui sert d'argument aux industriels et aux techniciens, aux ingénieurs pro-nucléaires pour justifier le recours à cette énergie qui est soi-disant non polluante. On rappelle qu'ils sont arrivés à la faire passer au niveau de l'Europe. Et pourtant, c'est Bernard Laponche, toujours cet ingénieur nucléaire qui le rappelle, la production nucléaire est, d'après lui, et on le savait déjà, loin d'être décarbonée. Donc il explique, notamment au niveau des mines d'uranium, de la construction et l'exploitation des réacteurs, des usines de combustible, donc d'enrichissement et de traitement du combustible, et encore plus sur la gestion des déchets, qui, comme ils le disent, émettent du CO2 ou des équivalents, puisqu'il y a d'autres gaz à effet de serre que le CO2, et des gaz à effet de serre bien plus puissants sont émis par le nucléaire lors de tout le processus. Ils ont rappelé aussi lors de cette conférence de presse que les réacteurs nucléaires consommaient énormément d'eau, notamment l'été, qu'ils participent au réchauffement des eaux fluviales avec les conséquences négatives que ça a sur la vie présente dans ces eaux fluviales, et que ça a un impact aussi sur la production puisqu'ils sont obligés de limiter parfois la capacité des réacteurs parce qu'ils n'arrivent pas assez à refroidir. Un cercle vicieux qui s'ajoute à d'autres menaces, ils l'ont rappelé aussi, les menaces d'accidents notamment, et aussi les menaces liés à des conflits. Et ils ont repris l'exemple de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, qui est un enjeu fort dans cette guerre que font les Russes pour occuper une partie de l'Ukraine, voire l'Ukraine entière. Et la centrale nucléaire, c'est la faiblesse un peu de tout le monde, surtout de l'Ukraine pour le coup, parce qu'une petite bombe et ça pète tout. Et donc c'est un enjeu très important et ça rappelle, ils ont rappelé que, il y a un enjeu aussi sur le nucléaire qui nous rend faibles. Grosso modo, c'est ce qu'ils disent. Et puis ils ont rappelé aussi les problèmes géopolitiques liés au nucléaire. Ils ont rappelé que en ce moment la situation française était ultra compliquée parce que suite au coup d'état militaire au Niger, la France s'est fait virer. Or, la France était là-bas pour les mines d'uranium. Hein, on rappelle quand même que c'est ça qui mobilisait les militaires, avec une excuse de lutter contre l'islamisme réellement présent quand même là-bas. Et puis, il rappelle aussi que le Kazakhstan, l'Ouzbékistan notamment, qui sont des fournisseurs forts de l'uranium français, ça passe par Rosatom, donc ça finance la Russie, c'est-à-dire la guerre en Ukraine. Voilà, et donc il rappelait que il fallait pas se laisser convertir par la propagande sur la prétendue souveraineté énergétique de la France, puisque 100% de l'uranium est importé, bien évidemment. Alors il y a eu pas mal de témoignages, une chercheuse notamment à l'INSERM sur le cancer, et qui est maintenant experte à l'ANSES, qui a elle aussi témoigné des autres impacts, notamment l'impact des faibles doses. Elle a rappelé qu'il y a une étude qui a été actualisée cet été, je vais en parler tout à l'heure. Et puis elle rappelle aussi les impacts sociaux que peut avoir le nucléaire, en prenant l'exemple de Fukushima, où non seulement il y a une catastrophe écologique, etc., mais il y a un impact social très fort, puisque des milliers de personnes ont vu leur vie familiale, sociale, professionnelle détruite par l'accident, et voilà, parce qu'ils ont mauvaise réputation, parce qu'ils ont été obligés de partir, etc. Et elle rappelle que le nucléaire, ça n'a pas qu'un impact écolo, ça a un impact social négatif qui peut être très fort. Voilà. Et puis, ils ont bien évidemment parlé des coûts financiers énormes. Et c'est la problématique que disait Greenpeace tout à l'heure, c'est qu'en fait, le nucléaire, ça coûte tellement cher que fabriquer une centrale, ça ponctionne tout l'argent, et on pourrait faire bien plus et bien mieux avec ce même argent. Pour les nouveaux réacteurs, ce qui était le cas de l'étude de Greenpeace, mais si on pense ce fameux grand carénage, le grand carénage, c'est la remise à peu près en état du parc nucléaire pour qu'il dure au moins 10 ans de plus. Là, on parle de dizaines, de centaines de milliards, et c'est de l'argent qui ne servira pas à autre chose. Donc bref, cette conférence de presse a permis de montrer que les scientifiques avaient un avis à donner, qu'ils soient spécialistes nucléaires ou pas, et c'était positif. Et on notera quand même que la communauté scientifique, en ce moment, se mobilise. Il y a plusieurs groupes de chercheurs en rébellion, il y a les fameux scientifiques en rébellion, et notamment ils se mobilisent aussi sur un sujet que défend encore Macron, Borne et tous ces anti-écolos. C'est l'autoroute A69 qui relie Toulouse à Castres, qui est un projet d'autoroute. Bon, alors voilà, Macron défend la voiture, on l'a bien compris, il défend les autoroutes. Il préfère construire des autoroutes plutôt qu'avoir des champs avec de la nature qui pousse. Donc il défend ce projet d'autoroute A69. Et ben il y a un gros groupe de scientifiques qui a monté un appel, une lettre ouverte. Ils sont plus de 1548, tout à l'heure j'ai vérifié, à dire que c'est une aberration de faire des projets autoroutiers aujourd'hui. Voilà. Bon, c'est pour dire que la communauté scientifique est beaucoup plus présente politiquement qu'il y a quelques années, et c'est une bonne chose. Alors, on va revenir sur ce que disait tout à l'heure la scientifique qui bosse pour l'ANSES et qui était à l'INSERM sur la recherche sur le cancer. Elle parlait d'une étude qui a été mise à jour. C'est une étude qui s'appelle InWorks, une étude épidémiologique internationale sur la mortalité chez les travailleurs de l'industrie nucléaire. Alors, c'est une étude qui a 50 ans, hein, qui se poursuit depuis le début, enfin qui se poursuit encore. Alors c'est une énorme étude, hein, puisque ça concerne plusieurs pays, notamment la France. L'objectif, c'est de vérifier la validité des hypothèses du système actuel de radioprotection, qui repose en fait sur le suivi épidémiologique des survivants des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, puisque c'est là où on a eu les premières personnes vraiment contaminées par la radioactivité. Et à partir de ce qu'ils ont vécu, de ce qui s'est passé, on a établi des règles sanitaires. Et l'étude, elle suit pour vérifier si ces règles ont été établis à partir de cette bombe atomique, c'est cohérent avec ce que vivent les travailleurs et les travailleuses du nucléaire. Donc la cohorte française, elle est de 59 000 personnes, donc travailleurs et travailleuses du COA, d'EDF et d'Orano, mais en tout, il y a plus de 30 000 travailleurs et travailleuses qui sont suivis par cette étude. Et les nouveaux résultats sont parus sur le site de la revue British Medical Journal, c'était au mois de juin dernier, si je ne me trompe pas. Et grosso modo, la conclusion, c'est que le risque de décès par cancer et l'exposition au rayonnement ionisant à faible dose, donc la faible dose est définie comme inférieure à 100 milligrays. Alors, c'est une unité qu'on n'utilise pas beaucoup, on entend souvent le millisievert, par exemple, Mais c'est une unité importante sur la santé parce que c'est la quantité de doses absorbées de rayonnement ionisant par unité de masse. Et c'est mesuré dans le corps humain au niveau du côlon. Donc c'est un truc très fiable et dont on connaît, enfin, qui est utile pour calculer l'impact sur la santé. Donc c'est pour ça qu'on utilise cette unité. Donc pour les faibles doses, inférieures à 100 mg, ils se sont rendus compte qu'en fait, qu'il y avait un impact. La théorie de les mini-doses, les faibles doses n'ont pas d'impact sur la santé, c'est faux. Donc ils ont démontré que ça avait ces impacts étalés sur le temps, un risque certes faible de cancer, mais néanmoins réel et donc non négligeable, puisque ça tue des gens. C'est ça la conclusion de l'étude. Ils ont démontré ça avec des travailleurs issus de générations récentes, parce qu'au départ, en fait, donc cette étude qui a une cinquantaine d'années, elle a toujours dans sa cohorte des gens qui ont travaillé au tout début de l'industrie nucléaire, qui eux ont pris des doses massives à un moment, enfin massives en comparaison des faibles doses, soit des soi-disant faibles doses qu'on a maintenant. Donc eux, quand ils sont dans l'étude, ils ont un impact plus fort parce qu'ils ont développé plus de cancers. Suite à tout ça, on a mis en place des mesures plus rigoureuses et un peu plus restrictives face au rayonnement ionisant. Et donc ils séparent les deux et ils se rendent compte qu'en fait, même sur ceux qui sont dans les normes modernes d'exposition à la radioactivité, l'impact est pas négligeable, il existe vraiment et ça crée des cancers et ça tue des gens. Alors ce qui est intéressant, c'est que la conclusion en fait, c'est que l'idée de se dire il y a des doses seuil, il y a un seuil en dessous, c'est pas si dangereux, c'est acceptable, et au-dessus c'est dangereux, il dit il y a pas de dose, il y a pas de seuil en fait. C'est que c'est dangereux dès le début et plus on en prend, plus on augmente les risques. Et donc ce qu'ils disent, c'est que il y a pas quand on travaille dans le nucléaire, on augmente d'office, si on est confronté à la radioactivité, les risques de mourir. Alors juste pour terminer cette rubrique nucléaire, deux infos du jour qui montrent qu'il y a des alternatives et que le capitalisme est capable, s'il a envie, de mettre en œuvre ces alternatives. D'ailleurs, le capitalisme n'est plus capable de construire des centrales nucléaires en grande quantité. Il faut les États pour le faire. C'est Heineken qui l'a démontré. Ils ont une usine en Espagne très forte, très grosse, et ils essayent d'économiser sur les émissions de gaz à effet de serre. Et ils ont construit une énorme centrale de 30 mégawatts. C'est une centrale solaire thermique. Donc, c'est des miroirs. En fait, c'est du métal qui reflète la lumière, qui est courbé. Ça fait un peu comme une parabole, mais une immense parabole longue. Et qui renvoie, qui concentre les rayons du soleil sur un fluide caloriporteur, de l'eau essentiellement. Et avec ça, ils font chauffer l'eau, ils la font bouillir, et ça, après ils arrivent à créer de l'électricité. Ils ont mis en œuvre cette centrale avec une grosse capacité de stockage de 68 mégawattheures. Ça a occupé 8 hectares du site actuel d'Heineken en Espagne, et ils ont pour objectif d'ici 2024, donc l'année prochaine, de fonctionner donc avec 84% d'énergie renouvelable, alors que pour l'instant ils sont à zéro. Donc c'est pour montrer que c'est possible. Autre exemple pour montrer que c'est possible, cette fois c'est le roi Willem-Alexander des Pays-Bas qui nous le montre. Il est allé inaugurer un parc éolien offshore, le Hollandse Kust Zuid, donc un parc éolien qui contient 139 éoliennes, situées à entre 18 et 36 km au large de la côte néerlandaise. 1,5 gigawatt, ça va permettre de produire de l'électricité pour 1,5 million de foyers. 1,5 million de foyers, 1,5 gigawatt, la puissance, la capacité, la puissance en fait, en sortie des 139 turbines. Donc voilà, ça montre que c'est possible, 1,5 million de foyers alimentés par du renouvelable. À ce jour, la France n'a aucun parc éolien offshore. À ce jour, la France est le pays européen qui a le plus de surface de mer. En fait. Donc voilà, ça démontre un peu que la politique du nucléaire, pro-nucléaire, elle défavorise tout le reste. Voilà, j'ai fini avec ma grosse rubrique nucléaire et radioactive.
Alors, on va partir à l'international et on va parler de la Slovaquie. Ce mardi 3 octobre, la République tchèque, la Pologne et l'Autriche annoncent avoir pris des mesures coordonnées pour instaurer des contrôles le long de la frontière avec la Slovaquie. Le principe, vous vous en doutez, c'est de réduire cette immigration dite clandestine et illégale. Et puis, paraît-il, de gêner l'activité des passeurs. Alors, il faut savoir que ça va dans le sens du celui qui pourrait être le nouveau Premier ministre suite aux élections législatives. Les élections législatives qui ont été remportées par le Parti National Populiste Maire, qui veut dire direction, et donc c'est le chef Robert Fico qui a une ligne assez dure hein, sur la question migratoire. Vous me direz, comme chez nous, hein, mais voilà, là, au niveau de la Slovaquie, on est proche de la Hongrie, je vais y revenir. Donc c'est Robert Fico qui est donc en position pour devenir Premier ministre. Il a déjà occupé le poste en 2006 et en 2018. Alors il va devoir former hein, Monsieur Fico une majorité avec peut-être les élus du Parti Social-Démocrate qui est une scission du SMER hein, qui est parti qui est arrivé troisième et puis peut-être avec le parti d'extrême droite pro-russe SNS. On va voir, hein, parce que comme toujours, il faut qu'il y ait des alliances pour que M. Fico obtienne donc ce poste de Premier ministre. En tout cas, comme je vous le disais, il a une position migratoire, sur les questions migratoires, assez tranchée, mais il a aussi des questions assez tranchées sur la guerre en Ukraine, et c'est en quoi il se rapproche de Viktor Orban et donc de la position de ce Premier ministre nationaliste hongrois. Il a fait toute sa campagne pratiquement sur ses affaires étrangères en expliquant que il fallait rejeter l'aide militaire à l'Ukraine. Il faut quand même se souvenir qu'actuellement on a un Premier ministre donc sortant, Ludovit Odor, qui a offert hein, des MiG-29 à l'armée ukrainienne, c'est-à-dire des, du matériel slovaque à l'Ukraine contre la Russie. Et on a donc là Monsieur Fico qui explique ne pas être pro-russe, mais il veut rejeter l'aide militaire à l'Ukraine parce qu'il explique que pour lui, donner de l'armement à l'Ukraine, c'est prolonger le conflit.
Alors lui, il a envie que le conflit s'arrête et que l'Ukraine soit russe, en fait, c'est ça, du coup.
Je n'ai rien dit. Ensuite, il trouve que mettre des sanctions contre la Russie, ce sont des sanctions qui font du mal à l'Europe, en fait, et donc à son pays. Donc, il faut arrêter les sanctions contre la Russie. Et puis, il aimerait normaliser les relations avec M. Poutine et donc les autorités russes, mais il explique qu'il n'est pas pro-russe.
Non, il est pour que la Russie gagne, et que... mais bon, il n'est pas pro-russe. Voilà.
En tout cas, M. Orban a salué la victoire d'un patriote avec lequel il est toujours bon de travailler, ce qui est aussi tout un signe quand même de la position de M. Fico. M. Fico, quand même, c'est le...
C'est le retour, quand même.
C'est un parti de gauche.
Non, mais en fait, à un moment, il était un peu de gauche. Il a disparu complètement pour des questions de corruption. Personne ne pensait qu'il allait pouvoir revenir. Et là, il revient et il gagne. C'est complètement improbable. Et depuis, il est devenu d'extrême droite.
Et alors, c'est ça qui est dingue, c'est quand même, c'est ce que je suis bien contente que tu en parles, c'est qu'il a quand même réussi, son parti a quand même réussi à gagner des élections législatives avec des affaires de corruption. Le problème, c'est qu'en face, tout le monde a des affaires de corruption. Alors, mais je veux dire, la Slovaquie a un gros problème de corruption, d'argent sale, de détournement de fonds, ça touche tous les partis, pratiquement. Et de fait, finalement, on n'est même pas étonné que M. Fico ait réussi à revenir. En tout cas, cette association Hongrie-Slovaquie pourrait permettre à la Hongrie de sortir de l'isolement dans lequel est actuellement le pays, dans cette position pro-russe, anti-Ukraine, je ne sais pas quelle est l'expression. C'est pas tout à fait la même idée. En tout cas, ça pourrait permettre à ces deux États de s'unir, surtout dans cette partie de l'Union européenne, et puis de mener donc des politiques au Conseil européen contre l'Ukraine, hein, parce que là quand même on sent que M. Orban, il a besoin d'alliés. En tout cas, M. Fico a dit qu'il ne voulait pas quitter l'Union européenne et qu'il ne voulait pas non plus quitter l'OTAN. Donc, en tout cas, ce sont ses déclarations sur cette campagne. Mais il veut des négociations de paix rapides et il estime que, de toute façon, les Slovaques ont des problèmes plus importants que cette guerre en Ukraine et que ça suffit, il faut parler d'autre chose. Alors, ces élections ont été marquées aussi par l'arrivée de ce dispositif, arrivé en août, hein, le Digital Service Act, sans l'accent. Donc c'est censé lutter contre la désinformation dans l'Union européenne en obligeant les réseaux sociaux, donc les entreprises Internet, à mieux réguler les contenus. Alors déjà, à mieux réguler les contenus, vous voyez, et puis forcer Twitter, Facebook et les autres à agir, c'est pas facile. En tout cas, ça n'a tellement pas marché, ce Digital Service Act, que ça fait que ces élections sont celles qui ont connu le plus de désinformation en Union européenne dans l'histoire. Hein. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté, puisqu'il y a une propagation d'informations mensongères, malveillantes, extrêmement importante durant la campagne. Alors par exemple, ce qui a marqué en tout cas la presse française, mais et qui a fait le buzz en Slovaquie, c'est un enregistrement 48 heures avant l'ouverture des bureaux de vote, un enregistrement où on entend le chef du parti centriste et pro-européen Slovaquie progressiste, Michal Šimečka, qui discute avec une journaliste d'investigation de la façon dont le vote Rom va être manipulé pour favoriser sa candidature. Cet enregistrement fait vraiment le tour des réseaux sociaux, toute la Slovaquie en parle, cet enregistrement il est diffusé, repassé, enfin tout le monde le fait circuler, et on apprend très rapidement que cet enregistrement est en faux puisque ce sont des voix générées par une intelligence artificielle.
Et voilà.
Donc, c'est un exemple extrêmement puissant hein, de ce qui a pu se passer. Le dispositif européen ne change rien à l'affaire. En tout cas, la vidéo, elle a été retirée par Facebook et TikTok, hein, qui ont quand même réagi. Mais c'est trop tard, parce que ça a été partagé des milliers de fois, et puis qu'après, l'être humain, quand même, continue à discuter dans la rue et au bistrot, et que tout ça est allé très vite. Et puis, surtout, ça a fait du bruit médiatique. Et puis, surtout... Un des gros problèmes, c'est que, comme chez nous en France, il y a une interdiction de discuter élection avant le vote. Ce qui fait qu'il y a eu des difficultés à contredire pour la personne qui était visée, elle-même, d'une manière assez directe, et de pouvoir revenir là-dessus, parce qu'elle risquait d'y avoir des risques d'aller contre la réglementation et les règles électorales en vigueur. Donc, la Slovaquie a été démontrée comme vraiment un pays. C'est un pays de 5 500 000 d'habitants.
Oui, c'est
un petit pays au niveau de son territoire, mais aussi au niveau de ses habitants. En tout cas, il a été donc difficile de contrer cet enregistrement falsifié. Et ce qu'il faut aussi se souvenir, c'est que Robert Fico, s'il a des problèmes de corruption, il est aussi un grand adepte complotiste. Il a pas mal de fois fait circuler de la désinformation, avec en particulier de la désinformation pro-russe, anti-Ukraine, de la désinformation contre les immigrés et, je vous en donne en mille, contre les LGBT+.
Ah bah
ça n'a pas manqué.
Quand on est d'extrême droite...
Hein, de gauche, paraît-il.
Ouais, mais c'était avant, ça.
C'était avant.
Il a brillé.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, M. Fico, il n'est pas différent des autres. C'est aussi pour ça que sa manière de faire ne gêne pas, puisque c'est le pays de l'Union européenne qui est identifié comme étant le pays où il y a le plus de théories du complot qui circulent, avec des habitants et des habitantes qui sont largement ciblés par la désinformation, c'est-à-dire que c'est un pays en France on a l'impression qu'on est entouré par des complotistes et qu'on n'arrive pas à s'en défaire, mais en fait non, c'est de la donnotte, la Slovaquie est le pays dans lequel il est le plus facile de manipuler l'opinion avec de la fausse information et de la désinformation. Par exemple, j'ai trouvé ce sondage qui date de 2018, 52% des habitants et des habitantes donc en Slovaquie estiment qu'il y a des sociétés secrètes qui contrôlent l'évolution des éléments dans le monde et tentent de créer un ordre mondial totalitaire. 52% des personnes interrogées. Ça ne reste qu'un sondage, mais c'est énorme. Il faut quand même...
Théorie portée par l'extrême droite depuis des années.
Voilà. Donc, en tout cas, Robert Fico, il est très connu hein, pour donc, toutes ses pratiques. Donc, il répond à une pratique nationale. Hein, c'est pratiquement du sport national. Il a parlé dans ses discussions internet de fascistes ukrainiens. Il a donc rendu hommage à cette guerre de désanification menée par la Russie, paraît-il, en Ukraine. Mais le problème, c'est que Robert Fico, je vous le dis, il était de gauche. Donc, ça gêne un petit peu les socialistes européens, ça gêne plein de gens en fait, parce qu'il y a des élections européennes qui 2024. Et je vous en ai parlé la dernière fois avec le Rassemblement National qui cherche des alliés pour créer des groupes au sein donc de ces eurodéputés. Et ben du côté de la Slovaquie, on essaye de se débarrasser de la, de ce parti SMER pour ne plus l'avoir dans dans ces groupes alliés. Alors du côté de la Hongrie, on espère pouvoir avoir des eurodéputés du SMER pour pouvoir monter un groupe fort, puisque du côté du groupe hongrois, on s'est fait dégager. PPA, hein, donc c'était un parti européen sur lequel, enfin, il s'est fait dégager, ils sont partis en 2021, donc ça pourrait amener des nouvelles alliances aussi au sein donc de ces eurodéputés. Mais du côté slovaque, il y a en tout cas un grand bazar en ce moment. Il y a des exclusions du Parti International Socialiste parce que M. Fico et son parti SMER ne sont plus considérés comme étant assez de gauche, avec des positions anti-migratoires trop voyantes. Et puis surtout, son complotiste quand même commence à faire extrêmement tâche. Du côté de l'Ukraine, il dit donc qu'il n'enverrait plus une autre balle, c'est son expression, mais qu'il veut bien amener quand même de l'aide humanitaire si besoin. Et tout ça, ses propos gênent hein, quand même les partis hongrois avec qui il pourrait y avoir des accords pour les élections européennes. En tout cas, il y a des amitiés qui se créent dans un parti, dans un endroit, dans un territoire de l'Union européenne. Et la Hongrie, qui se sentait très très seule avec la Hongrie de M. Orban, hein, bien évidemment, puisqu'on rappelle qu'il y a des Hongrois, des Hongroises qui manifestent contre cette politique d'extrême droite. En tout cas, on a une Slovaquie qui est en train de basculer, elle aussi, et là, pour le coup, pour des gens qui se disaient soi-disant de gauche. Mais vous savez, cette Slovaquie, elle a gardé ce côté de gauche communiste tout en étant extrêmement nationaliste, souverainiste et anti-migratoire et avec un bon petit fond russe au fond quand même. Toujours est-il que là, il y a des rapprochements qui se jouent en Europe actuellement et que ce sont des rapprochements qui ne se jouent pas forcément que sur la sensibilité politique, mais aussi sur des jeux de pouvoir et puis de bonhomme, hein, vous avez vu quand même.
Ouais. Alors, on va parler un petit peu et revenir sur le problème de la presse en France. On va commencer par le truc, l'escroquerie là, qui a été lancée par Macron suite à une promesse qu'il a faite en 2022. Donc, des états généraux de la presse qui vont durer au moins 9 mois, donc jusqu'à l'été 2024. Avec peut-être des propositions à la clé. Mais c'est un truc de propagande, on le sait déjà, hein, puisque le gouvernement essaie de faire croire qu'il se bat pour la liberté de la presse, alors que dans les faits, c'est le contraire. Car ces états généraux, qui sont censés être l'occasion d'écouter les attentes des citoyens, alors, un tour de France, des débats, tout ça, il y a un comité de pilotage, il y a même une consultation en ligne, tout ça, c'est quand même pas mal du foutage de gueule quand on voit ce qui se passe actuellement au niveau des journalistes en France. Donc il y a aussi des syndicats journalistes qui ont été contactés par Macron et compagnie. Ça a plutôt botté en touche, hein. Il y a 4 syndicats de journalistes, le SNJ, le SNJ-CGT, la CFDT et FO, là, syndicats de journalistes, donc de gros syndicats, qui ont dit qu'ils ne croyaient pas trop. Pour résumer, ils disent « on croit que ça va être une opération de communication ». Ouais, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Pourtant, le comité indépendant est composé de gens qui ont l'air plutôt respectables, ils sont 5. Le président, Bruno Lasserre, il vient de la commission d'accès aux documents administratifs, le CADA, donc là on n'a pas trop de choses sur lui. Par contre, il y a le secrétaire général de Reporters sans frontières, il y a une chercheuse et un spectrice générale des finances, donc voilà, on se dit ça pourrait servir à quelque chose s'il y avait une volonté politique réelle, avec comme d'habitude des thèmes dont on entend parler tout le temps. Alors la lutte contre la désinformation et les fake news, ça les arrange, c'est facile. Autre problématique hyper hypocrite, la mainmise des grandes fortunes sur les médias. Quand on voit ce qu'est en train de faire Macron, avec il cherche des amis milliardaires ou millionnaires pour racheter des trucs parce que il veut pas que ça soit Bolloré, parce que c'est un autre millionnaire ou milliardaire mais c'est pas son pote. En fait voilà, Macron il joue le jeu comme les autres des riches qui possèdent des journaux pour asseoir, pour avoir un moyen de pression et d'influence sur les Françaises et les Français. Donc voilà, c'est un peu ridicule. Alors, maintenant, si on veut parler de ce qui se passe réellement, derrière cet écran de communication, on rappelle qu'il y a 15 jours, hein, la journaliste Ariane Lavrieux, j'en avais parlé, a été mise en vue, mise en garde à vue, dans le but de lui faire balancer les sources qui avaient, lui avaient permis d'écrire ses articles, tout ça au nom du fameux et liberticide secret défense. Donc, il y a eu, suite à son incarcération, des demandes au gouvernement français de se positionner. Ils n'ont jamais répondu. Voilà, c'est juste ridicule. Il faut savoir que, en plus des états généraux de l'information lancés en France par Macron hier, ou avant-hier, il y a aussi le Medium Freedom Act, hein, qui passe au Parlement européen pour parler de la liberté de la presse, entre autres. Et pourtant, ça botte en touche. La journaliste de Disclose a quand même fait un certain nombre d'heures de prison, hein, de privation de liberté. Ça s'appelle une garde à vue. Donc voilà, on sent qu'il y a un double discours. Et notamment sur le secret des sources, puisque c'est de ça dont il est question. D'ailleurs, ce qui est présenté sur le site du gouvernement autour de ces états généraux de l'information, on parle donc de fake news, comme j'ai dit, des milliardaires, de deepfake, d'intelligence artificielle. Nulle part, on parle du secret des sources et du secret des sources, ouais, et du secret défense, qui sont les deux grosses problématiques qui sont liberticides en France. On rappelle, le secret des sources, hein, un journaliste ne devrait pas avoir droit, ne devrait pas être obligé de révéler qui lui a donné les infos pour écrire ses articles. C'est une base importante de la liberté de la presse, c'est reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme. C'était en 1996, mais Macron, Borne et compagnie n'en ont vraisemblablement jamais entendu parler. Il y a une loi qui protège un peu la liberté de la presse et le secret des sources, mais qui est très très pourrie, qui date de 2010, la loi Dati. Donc un journaliste n'est pas obligé de révéler ses sources, il y a des sauf si il y a un intérêt prépondérant, enfin s'il y a un impératif prépondérant d'intérêt public, ce qui est utilisé contre la journaliste de Disclose, parce que du coup c'est flou et ça permet d'être utilisé, et notamment le secret défense, c'est une plainte de l'armée, du ministère de l'armée. D'ailleurs, il y a des journalistes, notamment Disclose, qui ont essayé de demander un avis au gouvernement. Alors Olivier Véran, il a été questionné le 20 septembre dernier, il a dit non mais je réponds pas à cette question, c'est pas le moment. Bon, bien. Éric Dupond-Moretti, le 25 septembre à l'Assemblée nationale, c'est un député de la France insoumise qui lui pose la question, lui répond « Mais ne vous en déplaise, la justice de notre pays est totalement indépendante. Donc c'est pas moi qui ai fait. » Bizarrement, la justice, elle est saisie par lui-même, c'est-à-dire par l'État, l'armée, contre la journaliste. Donc, mais elle est indépendante et c'est pas lui. Non, ben si, il fait partie de l'État, il fait partie du truc, c'est le ministre de la Justice quand même. Bon, bref, un escroc et un menteur, mais ça, c'est pas la première fois non plus. Voilà, alors il y a Franck Riester aussi qui est le ministre chargé des relations avec le Parlement justement au sujet du Media Freedom Act, qui a dit que c'était important, la liberté de la presse, c'est un des fondamentaux de notre démocratie. Tu dis ouais, ça part pas mal, et puis après il dit mais il faut quand même encadrer tout ça. Bon, voilà, vous avez compris, grosso modo, il y a des négociations au niveau de l'Europe sur ce Medium Freedom Act, sur cette liberté de la presse. Ça partait plutôt bien au départ. Et puis, il y a un pays qui a fait rajouter l'exception de sécurité nationale. Donc, au nom de la sécurité nationale, on aurait le droit de casser la liberté de la presse, de placer des logiciels espions, d'espionner, etc. Quel est le pays qui a amené cette exception de sécurité nationale ? C'est la France, et oui, donc c'est le pays d'Europe, vraisemblablement, qui se bat le plus contre la liberté de la presse, on peut quand même le dire. Donc voilà, c'est une escroquerie de Macron que ces états généraux, et voilà, on rappelle Ariane Lavrieux, privée de liberté pendant 39 heures, interrogée avec insistance, pour pas dire plus, pour qu'elle révèle les sources qui lui ont permis d'écrire ces articles, les articles qui montraient que la France avait aidé l'Égypte à massacrer des gens. Mais c'était le secret défense, c'était du matériel militaire. Voilà. Le secret défense, quand ça existe, et ça existe tout le temps, c'est toujours antidémocratique.
Eh bien, on va vous laisser pour ce soir. Ah, tu avais une autre chose ?
Oui, je voudrais faire un petit agenda de deux trucs qui ont lieu à la Griffe, rue Sébastien Griffe, la librairie dans le 7e. Samedi prochain, à 15h, il y a Nedjib Sidi Moussa, qui a écrit un livre et qui vient en parler. Ça s'appelle Le Remplaçant. En fait, il était prof remplaçant en banlieue, en collège de banlieue, en 2022. Il a écrit un livre pour raconter son expérience. En même temps, il était vacataire à l'université, puisqu'il est chercheur, chercheur vacataire. Et bon, voilà, je pense que c'est assez édifiant. Et puis, le mercredi d'après, le 11 octobre à 19h, toujours à la librairie La Griffe, rue Sébastien Griffe, dans le 7e, c'est Chauvra Macaremi, j'espère que je ne prononce pas trop mal, qui a écrit un livre Femme, vie, liberté, donc au sujet. Elle est chercheuse anthropologue, chercheuse au CNRS, et elle est la fille et la nièce de deux militantes iraniennes arrêtées et exécutées dans les années 80 par les religieux au pouvoir en Iran. Et elle fait la chronique un peu de cette révolte de l'année dernière qui se poursuit tant bien que mal maintenant. Donc voilà, je voulais ajouter ça en agenda. Parce que des fois, il faut parler des choses qui ont lieu autour des livres, là, et autour des livres politiques.
Eh ben donc, on vous laisse en compagnie donc de l'équipe de La Petite Cuillère qui va arriver. On vous souhaite une très bonne soirée. On se donne rendez-vous, nous, jeudi prochain pour une nouvelle émission. Et demain, vendredi, vous retrouverez une autre équipe pour animer donc cette plage d'actu de Radio Canut.